Bonjour frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun de vous, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous renouvelle par sa parole. Et nous le remercions de ce que nous pouvons ensemble partager la parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer ce passage que nous avons vu sur l'épître de Paul aux Galates. Nous avons lu ce texte de Galates chapitre 1, versets 11 à 24, et nous avons parlé du témoignage de l'apôtre Paul, et notamment de sa vie avant sa conversion, et nous étions encouragés à rendre témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour nous dans notre vie, et ne pas avoir honte non plus de dire ce qu'il a fait dans notre vie et d'où il nous a sortis. Donc aujourd'hui, nous allons parler des débuts de la vie chrétienne de l'apôtre Paul, et nous allons voir aujourd'hui comment il est important de bien accueillir ceux qui se tournent vers le Seigneur, ceux qui deviennent des enfants de Dieu. Et nous allons parler à l'exemple du témoignage que nous donne l'apôtre Paul des débuts de sa vie chrétienne. Alors nous disions que pour prouver que l'évangile qu'il avait reçu venait de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, et non d'un homme, l'apôtre Paul, il donne son témoignage dans ce texte de Galates que nous allons relire. Il parle de sa vie avant sa conversion, dans les versets 13 à 14. Il parle du jour de sa conversion, le moment que Dieu avait choisi, mais aussi quelle a été sa vie juste après sa conversion, les premiers jours, les premières années de sa vie chrétienne. Sa vie avant sa conversion, nous voyons dans ces versets qu'il dit qu'il n'a pas honte de parler de sa vie avant sa conversion. Il n'hésite pas à dire qu'il persécutait à outrance et ravageait l'église de Dieu. Il dit qu'il était plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge et de sa nation, étant animé de zèle excessif pour les traditions de ses pères. C'est ce qu'il dit dans ses versets 13 à 14. Et nous aussi, donc, nous ne devons pas avoir honte de dire d'où le Seigneur nous a tirés, puisque cela démontre que l'on est conscient du péché dans lequel nous vivions autrefois, que l'on se rappelle qu'on a demandé pardon à Dieu et qu'il nous a pardonné. Cela nous montre aussi que l'on connaît, que l'on reconnaît la grâce de Dieu dans notre vie, que l'on veut donner aussi à Dieu toute la gloire pour ce qu'il a fait de nous maintenant. Donc voyons maintenant ce qui s'est passé le jour de la conversion de l'apôtre Paul, quelle a été son expérience personnelle de sa rencontre avec le Seigneur Jésus et ce qu'il a fait durant donc les premières années de sa vie chrétienne. Donc je vous invite à lire avec moi ce passage de Galates chapitre 1 et nous allons donc lire à partir du verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Dans les versets 15 à 16, l'apôtre Paul dit quelques mots sur le jour de sa conversion. Je vais juste relire ces deux versets. Il dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair et ni le sang. » Au lieu de parler et de décrire cette rencontre miraculeuse, cette rencontre extraordinaire avec le Seigneur Jésus ressuscité, et pour ne pas attirer même l'attention sur lui, l'apôtre Paul va mettre l'accent sur ce que Dieu a fait ce jour-là. Paul traduit sa rencontre avec le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas comme un acte souverain de Dieu. Donc, dans Actes chapitre 9, dans les 9 premiers versets, il parle de cette rencontre avec Jésus-Christ. Il dit, donc, que tout cela, c'est un acte souverain de Dieu. Pourquoi? Parce que, au verset 15, il dit, mais lorsqu'il plut à celui. Donc, c'est Dieu qui a décidé du jour et de l'heure où Paul ferait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il souligne trois choses que Dieu a faites pour lui. Dieu l'avait mis à part, il dit, dès le sein de sa mère, comme certains grands hommes de Dieu, tels que Jérémie, Isaïe ou Jean-Baptiste. Le choix de Dieu de sauver Paul est indépendant des œuvres que celui-ci aurait fait. Toute sa vie, avant sa conversion, était une préparation en vue du ministère que Dieu allait lui confier. Dieu, il dit que Dieu l'a appelé par sa grâce. Donc, Paul est conscient que ce qu'il méritait était la mort éternelle. Et au lieu de cela, le Seigneur fait de lui son serviteur, il dit par sa grâce. Dieu l'a appelé par sa grâce. Donc, le salut est un acte d'amour de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Dieu a révélé en lui, il dit au verset 16, son Fils. Donc, non seulement Paul a connu Christ physiquement sur le chemin de Damas, il l'a vu, le Seigneur lui est apparu, mais celui-ci est venu aussi habiter en lui lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu. Dans Romains chapitre 8, versets 9 et 10, il est dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et après, il ajoute que si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Donc, non seulement lorsqu'une personne devient chrétienne, l'Esprit de Dieu vient habiter en elle, mais c'est Christ qui vient habiter en elle. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors pourquoi Dieu a-t-il choisi de sauver Paul? Il dit au verset 16 que c'est pour qu'il annonce l'évangile aux païens. C'est pour cela que Dieu l'a sauvé. Et lorsqu'une personne vient à Christ, c'est pour le servir, c'est pour servir le Seigneur. On est sauvé pour servir. Et dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc lorsque Dieu a choisi de sauver Paul, c'était dans le but qu'il annonce l'évangile aux païens. Donc, la réponse de l'apôtre Paul ne s'est pas fait attendre. Il dit qu'il se mit aussitôt à l'œuvre. Donc, ce désir de servir son Seigneur et son Sauveur s'est manifesté sur ce chemin de Damas, lorsqu'il a dit au Seigneur, « Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Dans Actes chapitre 9, verset 6. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et c'est en cela qu'il a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur. Et au moment de la conversion, on dit au Seigneur, oui, on croit que Jésus-Christ est notre Seigneur. Dans les versets 17 à 24, il parle de sa vie après sa conversion. On peut juste relire ces versets, donc dans Galates chapitre 1, à partir du verset 17. Il dit, et donc, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Voilà alors ce qu'il dit, ce qu'il a fait après sa conversion. Mais il faudrait lire aussi d'autres passages, par exemple Actes chapitre 9, et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire, à lire avec moi Actes chapitre 9, versets 10 à 31, où l'apôtre Paul, dans Actes, donc c'est Luc qui nous raconte tout cela. Il y a plus de détails qui sont donnés sur les premiers jours de conversion, après la conversion de l'apôtre Paul, ou Actes 22 ou Actes 26. Et donc là, dans Galates, il dit que Paul, il ne consulta ni la chair ni le sang pour signifier qu'il n'a pas reçu, au fait, sa théologie des hommes. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de contact avec les autres chrétiens. Il n'est pas resté seul, isolé. Mais l'enseignement qu'il a reçu ne vient pas des hommes. Et le but de son témoignage dans Galates, c'est de montrer que l'évangile qu'il a annoncé ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Donc on peut lire Actes chapitre 9, versets 10 à 31, pour voir plus de détails concernant la vie de l'apôtre Paul juste après sa conversion. Alors il dit, « Or il y avait donc à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Et il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères ayant su l'emmenèrent à Césarée et le firent partir au Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Jusque-là. Alors, après donc la conversion de l'apôtre Paul, on peut noter plusieurs choses concernant sa vie. Sa vie est caractérisée déjà par son désir de faire la volonté de Dieu. Et ce désir de faire la volonté de Dieu, ça s'appelle l'obéissance. Il dit dans Actes chapitre 9 verset 6, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est la première chose qu'il dit au Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et on te dira ce que tu dois faire. » C'est vrai que nous n'aimons pas que l'on nous dise ce que nous devons faire. Mais parfois, nous venons avec l'idée de ce que l'on veut faire pour Christ. On voudrait faire des choses, mais on n'est pas toujours disposé à être à l'écoute pour entendre ce que l'on pourrait faire. Certains ne savent pas quoi faire aussi, mais refuse de faire ce qu'on leur propose. Et donc, l'apôtre Paul, le Seigneur lui dit, lève-toi et on te dira ce que tu dois faire. Donc, l'apôtre Paul, la première chose qu'il a montré dès le début de sa conversion, dès le début, c'est qu'il était disposé à écouter et à faire ce qu'on va lui dire de faire. Et si Dieu a sauvé Paul pour qu'il annonce l'évangile aux païens, donc qu'il soit l'apôtre des païens, ce n'est pas la volonté du Seigneur pour tous. Nous avons tous une mission à accomplir. Dieu nous confie à tous un service à accomplir. Mais pour l'apôtre Paul, sa mission particulière, c'était d'être l'apôtre des païens. L'Église locale est une représentation vivante du corps de Christ, où chaque membre a une fonction bien définie. Et c'est ce que l'apôtre Paul, il explique dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 20. Nous sommes chacun un membre du corps de Christ. Et en venant à Jésus-Christ, le Seigneur nous place dans son corps là où il veut, et nous dit, « Je t'ai sauvé pour que tu accomplisses une œuvre bien précise. » Mais cette œuvre bien précise, donc pour Dieu, Dieu sait pourquoi il nous a sauvés. Il savait pourquoi il avait sauvé l'apôtre Paul. C'était pour que l'apôtre Paul soit l'apôtre des païens. Mais cette œuvre bien précise connue par Dieu n'est pas si précise pour nous. Lorsqu'on est jeune converti, on ne sait pas exactement ce à quoi le Seigneur nous destine. Et comme pour l'apôtre Paul, bien qu'ayant les yeux ouverts, en fait, nous ne voyons rien. L'apôtre Paul, il avait comme des écailles sur les yeux. Et donc, il avait besoin d'être accompagné, il avait besoin d'être guidé. Et donc, nous aussi, acceptons que l'on nous prenne par la main, que l'on nous conduise. Donc, comme des personnes qui l'ont accompagné, l'apôtre Paul, en attendant la réponse du Seigneur. Il a prié, il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui a dit, « On te dira ce que tu dois faire. » Et lui, il ne voyait pas encore, mais il s'est laissé accompagner. Et donc, la première des choses qu'il témoigne, qu'il montre là dans sa vie, c'est son désir d'obéir au commandement du Seigneur. L'autre chose qui le caractérise, c'est sa communion avec Dieu, avec son Dieu. Et dans Actes chapitre 9, verset 12, il est précisé qu'il prie. Le Seigneur dit, mais il prie. Dans Actes chapitre 9, je relis les versets 11 et 12, il dit, « Et le Seigneur lui dit à Ananias, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Oui, l'apôtre Paul étant réconcilié avec Dieu, il peut maintenant s'approcher de lui avec assurance par la prière. Et Paul, en attendant de savoir ce que Dieu voulait qu'il fasse, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Donc, lorsque nous ne savons pas où aller, lorsque nous ne savons pas quoi faire, il est bon d'attendre en prière et par le jeûne, s'il le faut, la réponse du Seigneur. Dans Lamentations, chapitre 3, verset 26, Jérémie dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, l'apôtre Paul, en attendant d'avoir la réponse, il est en prière. Et le Seigneur dit à Ananias, il est là, il prie. Et le Seigneur lui montre ce qui va se passer. La troisième chose, c'est que l'apôtre Paul manifeste une communion avec les autres disciples. Non seulement il se fait baptiser, mais il rejoint aussi pendant quelques jours, une église. Dans Actes chapitre 9, verset 18 à 19, il est dit, au même instant, donc il tomba de ses yeux comme les écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Donc, l'apôtre Paul n'a pas attendu. Voilà, les premiers chrétiens, ils croyaient et ils se faisaient baptiser. Ils se faisaient baptiser pour montrer le changement qui s'est opéré dans sa vie. Et seul, le Saul d'autrefois, le persécuteur, il est mort, car il a été crucifié avec Christ, et celui qui vit maintenant est une nouvelle créature qui veut annoncer que Jésus est le Fils de Dieu, que c'est lui le Christ. La vie de l'apôtre Paul se caractérise aussi par une croissance spirituelle. Le verset 22 dit, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Puis pendant 3 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va disparaître de la circulation, pour certainement se former et se préparer en vue du ministère. Et pendant ce temps, l'apôtre Paul s'est fortifié dans le Seigneur, et dans sa force toute puissante. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait dire après aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Voilà, il a appris à s'humilier devant le Seigneur. Il a appris à trouver dans son Seigneur la force dont il avait besoin. Et après ces 3 ans, il alla donc à Jérusalem pour rencontrer les apôtres, Pierre et Jacques, le frère du Seigneur. Dans Galates chapitre 1, verset 18 à 20, il est dit que mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Tous le craignaient. Ananias aussi a montré de la méfiance envers Paul, car il avait appris ce qu'il avait fait à Jérusalem. Mais pour que Paul accomplisse la volonté de Dieu dans sa vie, qui est donc annoncer Jésus-Christ parmi les païens, il était nécessaire que les autres disciples le reconnaissent pour ce qu'il était, une nouvelle créature en Christ. Il devait s'assurer que Dieu avait opéré un changement dans la vie de Paul et que celui qui autrefois persécutait l'Église de Dieu est maintenant un témoin de Jésus-Christ qui annonce haut et fort que Jésus est le Fils de Dieu. Tout comme Ananias et les apôtres, nous pouvons faire preuve de méfiance vis-à-vis d'une personne qui dit avoir reçu Jésus dans sa vie. D'autant plus que si nous connaissons quelle a été la vie de cette personne avant, et au lieu de l'accueillir comme Christ l'a accueilli, nous repoussons cette personne au point où elle ne trouve pas sa place dans le corps de Christ, dans l'Église. Donc, ne laissons pas la peur par rapport à ce qu'elle était autrefois, cette personne, ou ce que nous apprenons d'autres personnes, de ce que cette personne a pu faire. Mais ne laissons pas la peur nous empêcher d'accueillir le nouveau-né dans la foi. Et comme Ananias, convaincu par le Seigneur, qui a dit à Paul qu'il s'appelait Saul, il dit « Saul, mon frère », dans Actes 9, verset 17, « nous aussi accueillons, frères et sœurs, le nouveau converti sur la base de sa confession, avec cette expression magnifique, « mon frère, ma sœur, accueillons ce nouveau converti, bonjour mon frère, oui ma sœur, sois la bienvenue, montrons que nous l'accueillons dans la famille. » Puisque pour que Paul puisse être accepté parmi les disciples, le Seigneur utilise donc deux personnes particulièrement. Il s'adresse lui-même à Ananias pour le convaincre. Dans Actes 9, verset 15 à 16, le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. » Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc le Seigneur convainc Ananias que l'apôtre Paul est un instrument que lui-même a choisi. Le Seigneur va utiliser aussi Barnabas afin que celui-ci le conduise vers les autres apôtres. Alors que tout le monde craignait l'apôtre Paul. Il dit, acte 9, verset 27, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et le raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Donc, Barnabas a été un instrument que Dieu a utilisé pour rassurer, apaiser les autres apôtres, les autres chrétiens, pour qu'ils puissent accueillir l'apôtre Paul parmi eux. Donc, frères et sœurs, ne condamnons pas une personne à cause de ce qu'elle aurait été ou ce qu'elle aurait fait autrefois. Mais cherchons la volonté du Seigneur et sa direction. Soumettons-nous à sa volonté en étant ces instruments que Dieu va utiliser pour accompagner ce jeune chrétien durant les premiers mois, voire les premières années de sa vie chrétienne. Donc, le Seigneur a dit à Pierre, ne déclarons pas impur donc ce que Dieu a déclaré pur. Dans Romains chapitre 15, verset 7, il est dit, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Oui, nous avons besoin, frères et sœurs, de bien accueillir ceux que le Seigneur ajoute à l'Église. Donc pour nous chrétiens, faisons comme Ananias qui a appelé Saul son frère, et comme Barnabas qui a accepté de prendre le jeune frère avec lui pour le conduire vers les autres. Oui, soyons comme Ananias, soyons comme Barnabas, ces personnes que Dieu avait déjà sauvées et qui vont être cet instrument que Dieu va utiliser pour permettre à l'apôtre Paul de bien s'intégrer dans l'Église. Chers amis, vous pouvez encore venir à Jésus pour trouver le salut de votre âme si ça n'a pas encore été fait. Mais sachez que si Dieu vous sauve, ce n'est pas pour que vous viviez pour vous-même, mais pour que vous viviez pour celui qui a donné sa vie pour vous. Vivre pour Jésus revient à servir Dieu en pratiquant les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et certes, vous ne le savez pas au départ, mais le Seigneur a mis des gens autour de vous qui peuvent voir quels sont les dons que le Seigneur vous a donnés. Que votre vie chrétienne soit caractérisée, comme pour celle de Paul, par un désir de faire la volonté de Dieu. Donc que vous soyez obéissant à Dieu. Que vous ayez ce désir d'être tout le temps en communion avec votre Dieu, en ayant une vie de prière, en allant constamment auprès du Seigneur pour connaître sa volonté. En ayant aussi le désir de manifester cette communion avec les autres disciples, les autres chrétiens. Et pour cela, il est bon de se faire baptiser comme le Seigneur le demande et rejoindre une église. On ne peut pas rester seul chez soi et dire, voilà, je vais sur Internet, je peux suivre culte sur Internet et que cela me suffit. C'est pas ça, être chrétien. Et l'autre chose, notre vie doit être caractérisée par une croissance spirituelle. L'apôtre Paul, dès le départ, il a commencé à croître spirituellement. Sa vie a commencé à croître spirituellement. Donc si vous vivez dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la communion avec Dieu, mais aussi avec les frères et sœurs, vous allez continuer à croître spirituellement. Et les personnes diront de vous, celui ou celle qui autrefois vivait de telle ou telle manière, maintenant, vit différemment. Et elles glorifieront Dieu à votre sujet. Donc à Dieu soit toute la gloire, parce qu'il a un plan pour chacun. Il avait un plan pour l'apôtre Paul. Et il a aussi un plan pour vous. À vous maintenant de ne pas résister à son appel, de répondre, oui Seigneur, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que c'est pour moi qu'il a donné sa vie sur cette croix. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Retrouvez une église fidèle, une église qui prêche fidèlement la parole de Dieu. Et là, vous allez continuer et vous allez croître spirituellement et vous allez être cet instrument que Dieu va utiliser pour l'avancement de son œuvre. Donc à lui seul toute la gloire. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.